est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démontre sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Il y a quelques jours, un milliardaire russe, Oleg Tinkov, patron de la banque en ligne qui porte son nom, a annoncé qu'il créait une fondation caritative pour lutter contre la leucémie, maladie dont il est lui-même atteint. Cette histoire est loin d'être unique. Partout, des milliardaires, voire de simples millionnaires, créent leur fondation et le font savoir. Ils affirment vouloir ainsi contribuer à l'intérêt général, au bien commun, encore plus dans cette période de crise sanitaire et économique. Ce sont parfois des individus, le plus célèbre d'entre eux est Bill Gates, mais ce sont aussi des entreprises qui allouent des fonds à des enjeux qu'elles estiment importants. Alors, ces milliardaires, ces entreprises, ces fondations, jouent-elles vraiment le jeu du bien commun? Quel est l'impact économique, politique et social de leurs actions? Surtout, ces interventions richement dotées sont-elles purement altruistes ou servent-elles d'abord l'intérêt des donateurs? Voilà quelques-unes des questions qui seront posées tout au long de cette émission aux quatre invités que je vous présente maintenant. Bonjour Vincent Hédin.
Bonjour.
Vincent Hédin, vous êtes journaliste, vous enseignez la rhétorique politique à l'École européenne de communication. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Rue de l'Échiquier, « Quand la charité se fout de l'hôpital, enquête sur les perversions de la philanthropie ». Avec vous, dans cette émission au téléphone, pour raisons sanitaires évidemment, Marc Lévy, bonjour.
Bonjour.
Marc Lévy, vous êtes secrétaire général de l'Observatoire des inégalités, membre du conseil d'administration de l'ANSA, l'Agence nouvelle des solidarités actives, et l'auteur d'un livre intitulé « La philanthropie peut-elle changer le capitalisme ?» paru aux éditions Atlante. Également dans cette émission, Didier Minot, bonjour.
Bonjour.
Didier Minot, vous avez été fonctionnaire dans votre vie professionnelle, vous animez aujourd'hui un collectif qui s'appelle Changer de Cap. Vous avez vous-même créé une fondation philanthropique dont vous avez fini par épuiser les ressources et résumé vos réflexions dans un livre intitulé « À quoi sert la philanthropie ?» publié aux éditions Charles-Léopold de Meyer, dans lequel vous vous interrogez sur les dangers de la toute-puissance de ce que vous appelez le philanthrocapitalisme. Enfin, je termine ce tour de table par vous, Jean-Louis Laville, bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Laville, vous êtes économiste, titulaire de la chaire d'économie solidaire au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, et vous avez coordonné le livre qui s'appelle « Du social business à l'économie solidaire, critique de l'innovation sociale » aux éditions RS, avec Maïté Juan et Joanne Subirats. Dans cette émission des reportages, bien sûr, nous avons rendez-vous à New York avec Lumna Anaki, à New Delhi avec Sébastien Farcy et à Paris avec Pauline Glaise. Didier Minot, je commencerai cette émission avec vous. Vous avez vous-même été philanthrope, donc vous êtes au cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure? Pourquoi vous êtes intitulé philanthrope? Quelle action avez-vous menée?
Eh bien, il se trouve que j'étais fonctionnaire à la retraite et militant dans les années 2010 à peu près, et j'ai hérité de mes parents une somme qui excédait largement les besoins de la famille. Et avec mes enfants, on a considéré que cet argent ne nous appartenait pas parce que il venait de la spéculation et de la spéculation immobilière. Et donc, il fallait rendre au bien commun ce qui n'aurait jamais dû en sortir. Donc, on a vu que la seule manière d'échapper à des droits de succession importants était de créer une fondation. C'est très favorable. Et donc, on a créé cette petite fondation pour travailler à la transformation sociale. Et on a épuisé notre capital en 10 ans, en aidant à la fois des mouvements citoyens et de la presse libre en ligne. Voilà.
Vincent Hédin, vous-même, vous avez milité ou participé à l'action philanthropique de quelle manière ?
De deux manières. Dans une vie antérieure, il y a une quinzaine d'années, j'étais le responsable des événements d'un petit think tank qui s'appelle Admical, qui est le club des entreprises mécènes. Et ensuite, avec la responsable de la collecte de Reporters sans frontières, on a écrit un guide pratique de la collecte de fonds qui s'appelait « Se lancer dans la collecte de fonds ». chez Dalloz, enfin quelque chose de vraiment très très descriptif. Donc voilà, j'ai beaucoup frayé auprès de ces acteurs, et puis par ailleurs je suis assez engagé dans la vie associative, et je sais bien que, enfin j'imagine qu'on en reviendra là-dessus tout au long de l'émission, mais je sais bien que les subventions étant en baisse, souvent pour pouvoir mener à bien de nouveaux projets, elles doivent faire appel à des mécènes. Donc je dois confesser que j'ai même animé des dîners de gala pour lever des fonds pour la bonne cause. Ouais.
Confesser parce que c'est un péché?
Non mais vous voyez, c'est-à-dire que quand j'entends Didier Minot, et puis moi je suis d'accord, et j'ai beaucoup apprécié son ouvrage, disons que dans un monde imparfait, la philanthropie reste une solution pour apporter des fonds à des projets qui sont porteurs de sens et qui sont porteurs d'impact social et qui sont des beaux projets, mais néanmoins, en termes de projets de société, je pense qu'on n'a jamais fait mieux que la progressivité via l'impôt. Or, les philanthropes échappent à la progressivité de l'impôt, on y reviendra,
j'imagine. Oui, bien sûr. Marc Lévy, vous partagez ce point de vue ?
Oui, absolument. C'est la question qu'on s'est posée, puisque donc le livre que j'ai écrit est le fruit d'un séminaire qu'on a tenu pendant 3 ans autour de cette notion de capitalisme philanthropique. Et le titre même se complète parce qu'effectivement, on s'est demandé...
Oui, j'ai pas cité, dans l'introduction, j'ai pas cité complètement le titre du livre parce qu'il est vraiment à rallonge.
Oui, ben c'est une façon de contribuer à la discussion. On s'est demandé si le capitalisme influençait la philanthropie ou la philanthropie influençait le capitalisme. Et on a conclu que c'était les deux et qu'on était justement dans une influence réciproque, à la fois bénéfique, mais en même temps qu'il fallait critiquer parce qu'on aboutissait à un certain brouillage qu'il nous fallait aujourd'hui essayer de clarifier par des nouveaux critères de différenciation.
Mais est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Comment est-ce que la philanthropie influence le capitalisme et comment est-ce que le capitalisme influence la philanthropie ?
Le capitalisme influence la philanthropie en particulier par les techniques financières. Donc ce capitalisme financier a des logiques financières dont on voit les impacts dans les milieux associatifs et dans les fondations. Il y a des fondations maintenant qui investissent et qui font pas seulement du don. Il y a des fondations qui sont devenues actionnaires. Et du point de vue des associations, on est, je dis on parce que j'ai vécu dedans, et Jean-Louis doit pouvoir aussi compléter, on voit énormément se développer les mesures d'impact, la logique du résultat, donc toutes choses qui viennent du monde de la finance, au point qu'on peut se demander si ce monde associatif et caritatif n'est pas d'une certaine façon en train de consolider la logique financière. De l'autre côté, ben, on voit effectivement la philanthropie influencer le capitalisme parce que il faut prendre au sérieux l'engagement de ces entreprises qui s'engagent dans le social et l'environnemental. Il faut prendre au sérieux les exemples que les collègues viennent de donner, des philanthropes qui font le bien. Il y a de la sincérité là-dedans. Et il faut prendre au sérieux une montée du consensus sur l'impact social, sur la croissance inclusive. Donc il y a effectivement une prise en considération des critères sociaux et des critères environnementaux qui vient de la pression du monde philanthropique, du monde caritatif en particulier.
Alors vous avez cité Jean-Louis au cours de votre intervention. Jean-Louis, c'est Jean-Louis Laville. Vous êtes l'universitaire, le chercheur de cette émission, Jean-Louis Laville. Entre le capitalisme et la philanthropie, quel est celui qui influence le plus l'autre?
Ben, pour m'inscrire dans ce qui vient d'être dit, je crois que ce qui caractérise la période actuelle, c'est que la philanthropie est passée tout à fait à un autre niveau à travers un projet qui s'énonce comme la possibilité d'un capitalisme à but social, un social business, et je crois que ce projet qui est extrêmement médiatisé dans différents continents aujourd'hui, ce que l'on a voulu faire à travers l'ouvrage du social business à l'économie solidaire, c'est faire une enquête empirique dans plusieurs continents, Asie, Europe, Amérique, pour voir qu'est-ce que donnait véritablement sur le terrain ce projet qui est annoncé à grands coups d'opérations de communication depuis maintenant une décennie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a toujours les mêmes exemples qui sont cités. En France, c'est en particulier le cas de Danone. On voit bien aujourd'hui les limites du modèle de Danone à travers la remise en cause qui est en train de se faire sous la pression d'un certain nombre d'actionnaires.
Alors, parlez-nous de Danone. Quel est le modèle que propose Danone ?
Ben Danone a voulu s'inscrire dans cette idée de social business à travers une alliance avec Mohamed Younous, qui est le propagateur principal de cette approche au niveau international. Et nous, ce que l'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir des données précises sur ces expériences dont la communication est contrôlée par les promoteurs. Et en fait, ça va même plus loin, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ce projet de généralisation de la philanthropie, de social business, apparaît comme un gigantesque bluff quand on compare l'ampleur des annonces avec la faiblesse des résultats.
Je précise que Mohamed Younous, c'est l'inventeur du microcrédit au Bangladesh.
Et voilà, c'est d'ailleurs intéressant de voir comment on est passé du microcrédit au social business, puisque c'est au moment où le microcrédit révélait un certain nombre de dysfonctionnements majeurs avec des suicides, par exemple, de la part de ceux qui avaient bénéficié de prêts et qui se retrouvaient dans des endettements insupportables, qu'il y a eu une nouvelle phase qui a été ouverte par Mohamed Younous en élargissant le propos au social business. Le problème, ce n'est pas qu'existe le microcrédit ou le social business. Le problème, c'est quand on veut en faire le levier principal, voire le levier unique pour réduire la pauvreté, et qu'en se donnant comme objectif de réduire la pauvreté, en fait, on oublie de lutter contre les inégalités. Et donc, on formate un certain propos de manière limitative en considérant qu'on fait le bien pour des pauvres, mais sans s'interroger sur d'où viennent les inégalités et comment le système produit ces inégalités.
Alors, on va partir tout de suite sur le terrain avec un premier reportage. Contrairement à la France, les musées sont ouverts aux États-Unis, mais le nombre de visiteurs est limité pour des raisons sanitaires que vous connaissez toutes et tous. Beaucoup de ces institutions connaissent cependant de grandes difficultés financières et ne surnagent que grâce à l'aide de fondations et de donateurs privés. C'est notamment le cas de petits musées comme le Queen's Museum de New York qui bénéficie de la générosité de la fondation Mellon, l'une des plus actives dans le domaine artistique aux États-Unis. Je vous emmène donc au Queen's Museum avec ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lumna Anaki à New York.
On a toutes les deux vu cette pièce dans un film et on s'est dit, il faut qu'on y aille.
Jessica et Kali découvrent la principale attraction du Queen's Museum, une maquette représentant la ville de New York, ses quartiers, ses ponts, ses gratte-ciels sur plus de 800 mètres carrés, une miniature datant de l'exposition universelle de 1964.
Je ne me rendais pas compte que New York était aussi grande, jusqu'à ce que je vois cette maquette.
Située dans l'un des quartiers new-yorkais les plus pauvres et les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, le musée du Queens a rouvert dès la fin du premier confinement, un soulagement pour les habitants.
C'est cool d'avoir des options en intérieur et de pouvoir échapper un peu à la réalité, de voir et de lire des choses qui ne nous affectent pas en ce moment.
Pourtant, maintenir le musée ouvert a été un défi, comme nous l'explique Sally Talente, la directrice du Queen's Museum.
Ça a été une période très difficile pour la survie des musées, vu le modèle duquel on dépend.
Privé de visiteurs et donc de revenus durant les 5 mois de confinement de l'année dernière, le Queen's Museum a réussi à tenir uniquement grâce à des dons.
C'est vraiment merveilleux que les fondations se soient mobilisées pour soutenir la culture. Ça nous a permis de rester ouverts, de rendre l'entrée gratuite, car nous avons conscience du fait que nos communautés font face à de grandes difficultés financières.
L'une des aides financières reçues par le Queen's Museum vient de la fondation Mellon, le plus grand donateur dans le milieu des arts aux États-Unis. En 2020, cette fondation a versé près de 500 millions de dollars à des musées, des compagnies de danse, des théâtres américains, presque le double des dons annuels habituels. Une mobilisation nécessaire, selon Deborah Cullen-Morales de la fondation Mellon.
Aux États-Unis, la culture et l'art fonctionnent avec des budgets très limités. Et quand il n'y a plus de visiteurs, ils ont quand même des dépenses pour leur personnel, le fonctionnement. Et c'est très difficile pour eux de collecter des fonds.
Depuis le début de la pandémie aux États-Unis, un fonds spécial Covid a été créé en collaboration entre plusieurs fondations et des donateurs privés avec plus de 300 millions de dollars distribués. Pour la directrice du Queen's Museum, en temps de crise, soutenir la culture est un devoir.
L'art est un espace où l'on peut vivre notre deuil, où on peut retrouver espoir en l'avenir, des choses dont on a vraiment besoin en ce moment.
Sally Talente espère ainsi que cette crise permettra d'ouvrir le débat sur le financement des musées, mais aussi sur le rôle des fondations.
Un reportage signé Lumna Anaki à New York. Les États-Unis, c'est la patrie de la philanthropie, Vincent Hédin.
Oui, oui. Et c'est pas mon modèle de société. Il se trouve que je l'ai pas précisé dans le livre, mais je suis franco-américain et je pense que c'est sans doute une des raisons qui m'a poussé à regarder ça avec effroi. Si vous voulez que je vous dise, en Californie, il y a 165 milliardaires et 17% de taux de pauvreté. Donc en fait, effectivement, c'est un pays qui produit beaucoup de richesses, mais il les redistribue très peu. Et en réalité, là, les montants qu'on entend, ça fait sonnant et trébuchant, mais c'est pas grand-chose par rapport aux richesses qui sont produites. Mais aussi, les musées, ils ont été fermés, ils ont pu rouvrir et ils ont été soutenus par un truc qui s'appelle la puissance publique. Et je préfère ce modèle-là, si vous voulez.
Mais dites-nous, dans votre livre, vous évoquez les montants astronomiques de la philanthropie américaine. C'est quand même un volume très important d'argent.
Alors, c'est un volume très, très important d'argent, mais il faut bien voir où va l'argent. Donc, on prend... Là-bas, ils sont très transparents. Hein. Les chiffres sont beaucoup plus faciles à trouver que chez nous. Donc, c'est un organe qui s'appelle Giving USA. En premier lieu, en fait, les philanthropes donnent à diverses églises. Bon, tant mieux pour eux. Ensuite, ils donnent énormément aux campagnes politiques, puisque vous savez que là-bas, contrairement à nous, les fonds qu'on peut apporter à une campagne présidentielle ne sont pas limités, notamment depuis une réforme de 2010 qui s'appelle les Super PACs, qui fait que la campagne de 2012 a dépassé le milliard de dollars d'investissement. Donc, c'est environ 60 fois ce qu'a coûté la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Et après, ils donnent énormément aux écoles et aux hôpitaux. Je préfère encore une fois notre système. Si vous voulez, le fait qu'on redonne de façon partielle sur certains territoires et de manière limitée dans le temps à ce qui devrait être du bien commun ne me paraît pas être un projet de société viable. Les États-Unis dépensent 17% des richesses qu'ils produisent pour leur système de santé, dont on a pu voir à nouveau l'inefficience cette année à l'aune de la crise Covid, alors que nous, avec un petit 11%, on s'en est quand même beaucoup mieux tiré, et encore, je préfère ce qu'était notre système hospitalier il y a encore une quinzaine d'années. Donc moi, si vous voulez, c'est toujours ça le problème. Votre reportage était excellent, et il se trouve que par un hasard, il se passe dans le Queens. Le Queens, c'est l'état le plus défavorisé de New York, et Amazon a fait un jeu de dumping social pour y installer son nouveau siège social. Alexandria Ocasio-Cortez s'est opposée et la représentante démocrate de l'aile gauche de New York, ouais. Et Bill de Blasio a fini par lâcher.
Le maire de New York.
Ouais, ouais, le maire de New York. Pardon, faut que je mette des sous-titres. Ouais. Et il voulait à tout prix que Amazon s'installe là, et en contrepartie, il leur a offert 1 milliard de ristournes fiscales. 1 milliard. Donc, je veux dire, en fait, moi, tout mon livre, c'est juste de regarder les ordres de grandeur. Et j'essaye de ne pas me laisser éberluer par les sommes des dons qui représentent peu de choses par rapport aux abattements fiscaux dont bénéficient les hyper riches américains. Il faut juste savoir que les 400 premières fortunes américaines payent moins d'impôts en moyenne que les classes moyennes basses. Ils payent 23% contre 24% tout en haut. Et ça a encore été aggravé par la réforme Trump. Donc effectivement, à chaque fois, on dit, rassurez-vous, laissez-nous nous enrichir et on va sauver la société parce que on a su faire de l'argent, on saura faire le bien. Mais la réalité, c'est qu'ils donnent très peu. Même les sommes qu'on entend, c'est très peu par rapport à ce qu'ils gagnent. Jeff Bezos, qui a décidé maintenant de se lancer dans le climat, ce qui est quand même une vaste blague quand on pense au modèle Amazon, il a donné, je crois, l'an dernier, 200 millions d'euros à Feed America, qui est l'équivalent des Restos du Cœur. Mais ce qui est rien comparé aux 30 milliards qu'il a gagné pendant la crise Covid. Et il gagne cet argent sur le dos du dumping fiscal. Moi, c'est ça mon problème de fond.
C'était Codici et Codailleurs sur RFI. Nous parlons de la philanthropie dans notre monde moderne avec quatre invités, Vincent Hédin que vous venez d'entendre, et puis au loin pour des raisons sanitaires, Marc Lévy, Didier Minot et le professeur Jean-Louis Laville. Marc Lévy, arrivé à ce moment de l'émission, et puisqu'on parle des États-Unis, un nom qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est celui de Bill Gates, qui est le grand philanthrope mondial actuel, 50 milliards de dollars distribués par sa fondation dans 135 pays. C'est quand même un grand bienfaiteur ou pas?
Oui, moi je crois qu'il faut reconnaître qu'il a un effet de bienfait. Enfin, il y a un certain nombre de maladies auxquelles sa fondation s'est attaquée qui aujourd'hui ont diminué leur impact. Donc je crois que c'est pas par ce biais-là que l'on peut vraiment critiquer. Je crois que ce que Vincent vient de faire dans son commentaire est essentiel. Il faut rajouter peut-être deux petites choses. C'est que les grandes fortunes aux États-Unis dominent totalement les fonds philanthropiques. Et effectivement, comme il l'a dit, il préfère investir dans les universités, dans le culturel, un peu dans la santé, dans l'éducation, dans les églises et dans les campagnes politiques. Et surtout, ce que je rajoute, c'est que c'est eux qui décident. C'est-à-dire qu'ils échappent totalement à la décision démocratique. C'est-à-dire, Bill Gates, par exemple, pour revenir sur le cas que vous mettiez en avant, Bill Gates décide de s'attaquer à la tuberculose. Bon, bah, très bien, c'est son choix, mais c'est peut-être pas la maladie qui fait le plus de ravages et qui est la priorité. Mais lui, il a décidé de s'attaquer à la tuberculose, etc. Donc, je crois qu'il y a un problème aussi donc de décision démocratique à laquelle ils échappent, en plus d'échapper, comme Vincent l'a dit à très juste titre, d'échapper à l'imposition, à la fiscalité.
Didier Minot, vous soulignez dans votre première intervention au début de l'émission que grâce à votre fondation, vous aviez pu, vous aussi, échapper à la fiscalité des successions. Je veux dire, la philanthropie est-elle un outil majeur d'évasion fiscale ?
Oui, bien sûr. Si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est un moteur de l'action philanthropique. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, quand il y a eu la suppression de l'ISF, les dons ont fortement diminué. Ça montre bien que l'incitation fiscale est très importante. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que en France, la place de la philanthropie, au contraire, est restée très limitée. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de promotions de la philanthropie dans certains journaux. Je pense au Monde, à La Croix, qui font des numéros spéciaux, etc. Mais à elles toutes, les fondations françaises n'ont un budget que de 9,6 milliards d'euros. Et les trois quarts sont consacrés à des activités propres, des établissements de santé sous forme de fondations, des établissements de recherche et d'enseignement. Et donc, il n'y a finalement que 2,5 milliards d'argent qui sont redistribués par les fondations et qui vont principalement à des œuvres religieuses, à des universités, à des actions culturelles de prestige. Et l'environnement, la solidarité internationale, les actions à dimension citoyenne font chacune moins de 2% du total. Donc on est face à un discours qui est un peu de l'esbrouf en France. Et quand le pouvoir actuel dit que la philanthropie va remplacer l'action publique, ce discours est complètement mystificateur. Parce que en face, le budget des associations, le budget consolidé, et d'environ 110 milliards d'euros, hein, et il y a 20% encore de subventions publiques. Ça a beaucoup diminué depuis 15 ans, mais ça reste quand même, l'action publique, les crédits publics restent quand même le moteur essentiel. Et donc, prétendre que c'est la philanthropie qui va remplacer l'action publique relève d'un discours politique complètement mystificateur.
Marc Lévy, vous êtes au cœur du monde des inégalités, enfin de la lutte contre les inégalités au sein de votre observatoire, au sein de l'association nationale LAMSA des solidarités actives, dont vous êtes un membre du conseil d'administration. Est-ce que la philanthropie est un levier de réduction des inégalités ?
On peut pas dire totalement le contraire, parce que effectivement, elles ont une action, des activités qui y contribuent. Mais globalement, enfin, c'est ce que vient de dire Didier Minot, je reprends cette idée-là, globalement, le monde associatif et caritatif est assez peu redistributif. Alors, comme l'a dit Vincent, on a des indications très précises sur les États-Unis parce que ils sont très transparents. Du coup, un peu sous cette pression et un peu sous la pression de la critique, parce que aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la montée des inégalités pose problème. Même Christine Lagarde, quand elle est directrice du FMI, a dit « trop d'inégalités nuit à la croissance ». Donc même les tenants de la croissance reconnaissent que les inégalités sont contradictoires. Donc les inégalités sont devenues un tel problème que, bien sûr, il faut essayer de lutter contre. Donc du coup, le monde des fondations en France essaye, dans son panorama de la générosité, essaye de donner des indications sur leur rôle en matière de redistribution. Et pour le moment, on n'a pas des chiffres très détaillés, mais quand même des premières indications qui montrent que l'engagement en faveur des minorités, l'engagement en faveur des gens de l'immigration, l'engagement en faveur des populations les plus défavorisées, c'est pas là que va l'argent des fondations. Donc oui, le monde des fondations contribue, certes, mais sans être suffisamment redistributive pour être, alors certainement pas, comme vient de le dire Didier Mineau, discours mystificateur, sans être une alternative aux services publics et au rôle de l'État en matière de défense de l'intérêt général. Là, je crois que le cœur du discours, il est là. C'est-à-dire, quand ça va jusque-là, le propos, c'est-à-dire, nous sommes une alternative à l'État et à l'impôt, alors là, il faut vraiment réagir vivement en démontrant que ce n'est pas le cas.
Vous partagez ce point de vue, Jean-Louis Laville, j'imagine ?
Oui, je crois que ce qui vient d'être dit sur les sommes en jeu est tout à fait nécessaire pour replacer le débat à son véritable niveau. Je voudrais juste mentionner qu'en plus, il y a une dimension symbolique. Moi, c'est vrai que ça a été un électrochoc quand j'ai vu dans un supplément week-end d'un grand journal une illustration pleine page dans laquelle on voyait le ménage Gates tenant la main d'un enfant noir, allongé et malade. Là, je pense qu'on était dans la pire imagerie du colonialisme, hein, et qu'il faut voir que depuis deux siècles, il y a une lutte entre deux conceptions de la solidarité. Une conception qui passe par la redistribution publique, qui passe par la solidarité démocratique, alors que l'on peut critiquer à certains égards sur son fonctionnement, mais qui passe par le mécanisme de la démocratie représentative dans lequel les choix d'allocation des ressources passent par ces instances démocratiques. Et puis une autre vision, qui est la vision philanthropique, la solidarité philanthropique, dans laquelle il y a des gens qui choisissent eux-mêmes les causes auxquelles ils vont contribuer. Et là, je serais même un peu plus sévère que Marx, c'est-à-dire que je crois que si l'on regarde la philanthropie depuis le début du XIXe siècle, il y a une constante des dames patronesses d'hier jusqu'aux entreprises patronesses d'aujourd'hui, c'est de masquer le problème des inégalités et de le remplacer par un discours sur la pauvreté qui, justement, ne relie pas la pauvreté à la question des inégalités. Et ça, c'est une constante de la philanthropie depuis deux siècles.
Vincent Hédin, je voyais que vous réagissiez. Bill Gates, aujourd'hui, c'est une dame patronesse colonisatrice.
Je ne peux qu'abonder à ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a un problème de démocratie. Est-ce que la tuberculose est le principal problème? Et pourquoi pas le PALU? Pourquoi pas ne confier, effectivement, puisqu'il va vers l'OMS, à des experts internationaux, le fait d'établir quelles sont les priorités à traiter en termes de pandémie mondiale? Il y en avait bien avant le Covid. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, souvent, les donateurs, ils veulent que se souviennent d'eux. Ils veulent qu'on se souvienne d'une cause. Et donc, effectivement, de manière très subjective, ils donnent à un endroit, soit un endroit qui les a marqués. Par exemple, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, il a donné aux bibliothèques de Newark parce qu'il est né à côté, ou à une maladie qu'ils ont eue. Vous avez cité Oleg Tinkoff en entrée, mais Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google aussi, ont une fondation contre les maladies rares qui les affecte eux directement. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu une privatisation du bien. Et encore une fois, surtout, et je pense que ça a été précisé par les trois intervenants, c'est le compte n'y est pas en matière d'inégalité. Je voudrais juste prendre un exemple très rapidement. Dans les années 80, Coluche crée les Restos du Cœur en disant « c'est pas possible qu'un pays aussi riche que la France n'arrive pas à nourrir tout le monde, donc on va faire les Restos du Cœur ». On crée d'ailleurs un amendement fiscal spécial, l'amendement Colucci. Voilà. Et les Restos du Cœur distribuent 8 millions de repas avec l'aide de milliers de bénévoles. Bon, 30 ans plus tard, la France, en tant que quantité, est un pays deux fois plus riche qu'il y a 30 ans. Ça, c'est les travaux de Piketty. Or, on distribue 130 millions de repas avec les Restos du Cœur, c'est-à-dire 15 fois plus qu'il y a 30 ans. Donc, le seul problème, c'est la redistribution.
Alors, on va repartir sur le terrain avec un ancien industriel et millionnaire, Olivier Legrain, qui entend consacrer une partie de sa fortune à la création d'une maison des médias libres, un lieu qui hébergerait des médias indépendants. Il a également créé un fonds pour financer un accueil digne pour les migrants sur tout le territoire français. Portrait Écho d'ici, Écho d'ailleurs d'Olivier Legrain, signé Pauline Glaise.
Dès l'entrée d'un pavillon confortable, s'ouvre sur la droite la porte d'un cabinet de psychanalyse, psychothérapie. La grande passion d'Olivier Legrain depuis longtemps, son activité principale depuis quelques années. Le reste de son temps, le sexagénaire le dédie à divers engagements, y compris son fonds de dotation, Riache France.
Ce fonds a deux objectifs. Un objectif à moyen long terme, qui est de créer un peu partout dans le pays des maisons de l'hospitalité, avec comme objectif d'essayer de faire cohabiter le plus possible des migrants et la population. Mais à court terme, il y a beaucoup d'actions coup de poing.
Riache France avait financé une partie des tentes Place de la République. Ce fonds, il l'abonde grâce à sa vie d'avant, une longue carrière d'industriel.
J'ai une carrière d'ingénieur, j'ai fait ma vie industrielle d'abord chez Rhône Poulenc, puis ensuite j'étais chez Lafarge, et ensuite j'ai créé une société qui s'appelle Materis, qui était ce qu'on appelle un LBO du groupe Lafarge. Donc un LBO, c'est une partie d'un groupe qui est racheté par des fonds d'investissement et une partie de ses salariés. C'est une entreprise qui a bien fonctionné pendant 15 ans.
Cet homme de gauche s'est donc retrouvé à la tête de moyens financiers importants.
J'ai jamais imaginé que j'aurais accès à des sommes pareilles qui, pour moi, quand j'étais jeune ingénieur, ne voulaient rien dire. Petit à petit, a germé dans ma tête, oui, l'idée que cet argent, j'étais prêt à retransmettre une partie à mes enfants, mais qu'il n'était pas question que tout cet argent aille à ma famille. Je trouvais ça pas tout à fait normal, voire même anormal.
Il compte dépenser ainsi les trois quarts de sa fortune. Une partie du budget ira à sa maison des médias libres pour laquelle il est prêt à acquérir de l'immobilier à Paris. Une autre au fonds Riache France. Et s'il a énoncé des principes, un accueil inconditionnel des migrants, il ne choisit pas lui-même les projets financés.
Étant le principal fournisseur d'argent de ce fonds, je ne veux pas être jugé parti. Je trouve qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. De la même manière, je suis à la base d'une maison des médias libres qui est en train de se construire à Paris. J'apporterai très probablement tout l'argent, mais je veux que la liberté de la presse soit respectée.
Olivier Legrain espère aussi que d'autres bonnes volontés se manifesteront.
Là, un jour ou l'autre, on sera limité. On a écrit qu'on avait à peu près 3,5 millions d'euros dans les 4 ans qui viennent. Si on voulait vraiment mettre beaucoup de maisons d'hospitalité en France, il faudrait à peu près le double. Je pense qu'à un moment donné, on n'est pas la puissance publique, donc on va toucher les limites de ce projet. Mais si on était arrivé dans les 3, 4, 5 ans qui viennent à mettre en place une dynamique, je considérais que c'était un vrai succès.
L'ex-industriel a trouvé peu d'écho à sa sensibilité tout au long de sa carrière et il se sent toujours isolé.
Mes idées politiques que je ne veux pas plus développer ici sont d'un certain style et ont peu de répondants dans le monde industriel et financier que j'ai côtoyé pendant toute ma vie. Peut-être d'ailleurs plus je montais dans la hiérarchie, plus l'oxygène était faible. Et ça ne m'a pas gêné parce que j'étais passionné par ma vie d'industriel et financier. Maintenant, je constate que dans mes combats, il y a très peu de gens avec moi. Je ressens cette solitude.
Olivier Legrain n'aime pas les termes de mécène ou de philanthrope. C'est pour lui un engagement politique et citoyen.
Un reportage, un entretien signé Pauline Glaise. Didier Minot, vous vous retrouvez dans ce portrait, dans ce profil d'Olivier Legrain?
Complètement, je connaissais pas Olivier Legrain, mais c'est très intéressant, c'est assez proche, sauf par les sommes en jeu qui sont nettement plus importantes. Effectivement, je crois que on a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit. Quand j'ai fondé cette petite fondation, j'ai découvert le monde de la philanthropie et il y a des très grandes différences. On met sous un même mot des choses qui n'ont rien à voir. Hein. C'est comme quand on parle des poissons, il y a les sardines et puis il y a les requins. Hein. C'est pas la même chose. Et donc, il y a beaucoup de philanthropes qui travaillent au bien commun sur permettre à chacun d'agir sa vie. Je prends le terme d'une fondation qui sont pour que le monde soit construit par tous, hein, un monde par tous. Et à côté de ça, on a le plus gros des fondations qui sont des fondations liées à des entreprises et qui sont au fond un prolongement de la stratégie de l'entreprise et un moyen de communication aux côtés de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises ou du mécénat. Donc il faut rendre justice à cette philanthropie désintéressée et elle est nécessaire aujourd'hui parce que moi, je partage complètement ce qui a été dit auparavant sur c'est l'impôt qui doit répartir, qui doit être l'agent principal de la solidarité. Mais on est dans une situation aujourd'hui où l'État lui-même a été pris d'assaut et perverti par des puissances financières. On voit bien que le président de la République est directement un banquier. Et les crédits publics ne vont pas toujours à des actions porteuses de biens communs. Et par contre, des actions nécessaires sont dépourvues de moyens pour démarrer. Et pour ça, les fondations alternatives, qui sont très peu nombreuses, ont un rôle fondamental pour pouvoir accompagner l'émergence de projets importants. Par exemple, la Fondation Un Monde par Tous a accompagné à la fois le démarrage de Migre Europe, d'Alternatiba, de Reporters, donc des projets qui aujourd'hui sont des éléments importants pour résister et reconstruire.
Jean-Louis Laville, Didier Minot évoquait à l'instant les entreprises qui font œuvre ou assaut selon la position qu'on a, de mécénat, de philanthropie. Est-ce que c'est un phénomène très important ?
Je pense que ce que vient de dire Olivier Legrain et ce que vient de dire Didier sont des éléments qui amènent à faire une distinction. Je pense que la philanthropie, c'est une certaine façon qui a été inaugurée, je le rappelais tout à l'heure, dès le 19e siècle, par un certain nombre de libéraux, Basquiat et d'autres, Malthus, Ricardo aussi.
De grands noms de la pensée économique.
De grands noms de la pensée économique, mais qui aussi s'inspiraient d'une pensée disciplinarisation, discipliner les pauvres. Et donc, dans la philanthropie, il y a cette idée aussi qu'il y a une recherche de conformité et qu'il ne s'agit pas d'aider tous les pauvres, mais d'aider les pauvres qui sont responsables, qui ont des comportements qui sont corrects. Donc il y a toute cette idée qui imprègne la philanthropie depuis le début. C'est pour ça que je pense que Olivier Legrain a raison de dire que les fondations alternatives dont parle Didier sont en fait plus des engagements citoyens. Je crois que nous sommes d'accord dans ce débat pour dire que c'est la redistribution publique qui doit rester le modèle central et que aujourd'hui on parle beaucoup de la philanthropie, mais ça occulte un autre mouvement qui est la montée dans tous les continents des initiatives citoyennes dont les fondations alternatives font partie. Et je crois que c'est pour ça qu'on a fait le livre avec Joan Subirats, qui est un élu de Barcelone. C'est parce que dans Barcelone, il y a véritablement un autre modèle qui est en train d'émerger. Barcelone n'est qu'un terrain parmi d'autres à cet égard, mais c'est un terrain intéressant. C'est-à-dire que ce que fait Barcelone, c'est non pas d'aller du côté de la philanthropie, mais d'aller du côté d'une nouvelle articulation entre les initiatives citoyennes et les pouvoirs publics. Et ça, ça me semble extrêmement porteur d'avenir. C'est-à-dire, on voit bien dans Barcelone aujourd'hui comment la nouvelle politique des communs, comment la nouvelle politique d'économie solidaire crée des possibilités et amène à articuler deux mondes qui sont restés trop longtemps étrangers les uns aux autres. C'est le monde des initiatives citoyennes et celui des autorités locales, des collectivités locales.
Mais dans l'entretien qu'il a accordé à Paul Inglès, Olivier Legrain dit bien qu'il est totalement isolé, autant dans son monde industriel que vis-à-vis des politiques.
Oui, mais parce qu'il faut qu'il change ses relations, qu'il aille voir du côté de tout ce tissu qui existe dans tous les continents aujourd'hui, qui est celui des initiatives citoyennes, et qui ne cherche pas à convaincre les financiers qu'il a côtoyés pendant sa vie professionnelle. Il y a des tas de gens à découvrir ailleurs, et il faut discuter avec ce monde foisonnant qui est celui des initiatives citoyennes, qui ne se suffit pas à lui-même, et qui ne peut donc véritablement peser dans les choix de société, dans la transition écologique et nécessaire que nous avons devant nous, que s'il y a une nouvelle articulation avec les pouvoirs publics.
On va s'intéresser maintenant aux entreprises. Jean-Louis Lavide, vous aviez évoqué au début de l'émission l'entreprise Danone au Bangladesh, son accord avec Mohamed Younous, la Grameen Bank, le microcrédit. On part maintenant en Inde, où certains grands groupes comme Tata sont connus, d'ailleurs depuis longtemps, pour leur philanthropie. Mais cette pratique s'est répandue en Inde grâce à une loi entrée en vigueur il y a 7 ans, en 2014, et qui oblige les entreprises les plus riches à consacrer une petite partie de leurs profits à des activités caritatives ou de développement. Mais l'application de cette loi est parfois ambiguë, et surtout ces financements se sont écroulés l'an dernier à cause de la crise du Covid-19. Écoutez ce reportage Écodici Éco d'ailleurs, signé de notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy.
Elle s'appelle Infosys, Tata ou Mahindra et depuis 2014, ces énormes multinationales indiennes doivent débourser 2% de leurs profits sous forme de philanthropie ou RSE pour responsabilité sociale de l'entreprise. En 5 ans, ces fonds ont quasiment doublé pour se porter à plus de 2 milliards d'euros en 2019. Cela a bénéficié à l'association Azad qui forme des femmes de milieux populaires à devenir chauffeuses de taxi. L'ONG a commencé à toucher ses fonds de RSE en 2016 et il représente aujourd'hui près de la moitié de son budget. Pallavi Chaman est la responsable financière de l'association.
Notre principal donateur est Mahindra Finance et son aide a été énorme car elle nous a permis de créer des partenariats dans 4 villes et nous voulons augmenter cette part de RSE car cela nous permettra de réduire les donations de l'étranger qui sont plus réglementées aujourd'hui.
Ces contributions ont malheureusement été divisées par 2 cette année en Inde à cause de la crise sanitaire qui a réduit les profits des entreprises et détourné leurs contributions vers le fonds gouvernemental sur le Covid. Mais même avant la crise, Amrita Gupta, la directrice des recherches de Azad, luttait pour que ses compagnies s'engagent sur la durée.
Quand les fonds de RSE nous approchent, ils nous disent de donner aux femmes une formation de 3 mois pour faire plus de chiffres. Mais cela prend du temps de transformer la vie de ces femmes marginalisées. Nos formations durent donc 9 mois, mais offrent des résultats. Plus de 60% des femmes qui suivent nos formations restent ensuite dans le métier. Pour les formations de 3 mois, c'est seulement 2%.
La chercheuse associée d'économie Ayesha Khatun de la Lovely Professional University du Punjab estime qu'il est temps que ce système de RSE devienne plus professionnel.
Certaines entreprises installent des fontaines à eau lors de festivals religieux et font passer cela pour du RSE. Ce n'est pas acceptable, car ce n'est pas du développement. Beaucoup n'ont pas d'équipe dédiée à plein temps, et cela doit changer pour garantir des investissements plus intelligents.
Un nouvel amendement à la loi oblige les plus grandes entreprises qui dépensent environ 1 million d'euros par an en philanthropie à faire réaliser une étude d'impact de leurs contributions par une agence indépendante.
Un reportage signé Sébastien Farcy dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Louis Laville, la RSE, le social business, là on est en plein cœur de votre livre, de vos travaux.
Oui, ça me fait penser à un autre travail qu'on vient de publier en anglais cette fois-ci avec une chercheuse indienne, Swati Banerjee, qui montre à partir d'exemples aussi comment il n'y a pas une convergence forcenée entre un certain nombre d'initiatives citoyennes et la responsabilité sociale d'entreprise. Parce que dans certains cas, je pense par exemple à des cas dans lesquels les exploitations du sol amènent à un appauvrissement de ceux-ci, il y a une opposition directe entre des groupes d'agriculteurs, d'agricultrices qui essayent d'aller dans le sens de l'agroécologie et ces entreprises qui sont en train effectivement d'appauvrir les sols. Donc je pense qu'il peut y avoir dans certains cas une convergence entre des initiatives et puis des engagements de type RSE de l'entreprise, mais il ne faudrait pas là encore en faire un modèle qui soit un modèle complètement central parce que ça gomme toutes les conflictualités démocratiques qu'il y a en ce moment, en particulier entre ce que recherche un certain nombre d'initiatives et les comportements d'un certain nombre de grandes entreprises. Là, probablement, il faudrait aussi distinguer au sein des entreprises entre celles qui sont finalement dans un jeu financier au niveau international qui les éloigne de toute possibilité d'un rapport au territoire et un tissu de petites et moyennes entreprises qui, lui, a gardé, pour l'essentiel, un lien avec ce territoire.
Marc Lévy, ces grandes entreprises qui sont obligées de donner 2% de leurs profits, c'est quasiment de l'impôt qu'ils payent, là, non ?
Oui, on peut le présenter comme ça. Effectivement, ça m'est arrivé, d'ailleurs, un jour, dans une discussion avec certains dirigeants de Total, qui financent aussi des activités de ce type-là, de leur dire, mais au fond, vous pratiquez l'impôt à votre échelle. Mais c'est pareil, ça, c'est pas la même chose quand c'est une initiative directement gérée par les entreprises ou quand ça passe par le canal de l'État avec tout ce que ça veut dire de démocratisation. Mais il n'empêche, oui, qu'on peut le considérer, en tout cas, comme une aide précieuse et acceptable.
Marc Lévy, vous avez longtemps travaillé dans un organisme qui s'appelle le GRED, qui est très tourné vers l'international, vers les pays émergents. Est-ce que la philanthropie, et on voit que Bill Gates intervient, par exemple, beaucoup dans les pays émergents, est-ce que la philanthropie est vraiment, comme l'un d'entre vous, je ne sais plus lequel l'a dit, est un nouveau colonialisme ?
Oui, bon, il faut se méfier de ces formules un peu à l'emporte-pièce qui à la fois disent vrai, mais peut-être le disent de façon un peu trop abusive. Donc, j'irai pas jusque-là, en particulier parce que les uns et les autres, là, au cours de l'émission, on a tous rendu hommage à l'engagement d'un certain nombre de ces philanthropes. Donc, de les réduire à un colonialisme, c'est peut-être un peu malveillant. Maintenant, c'est vrai que globalement, il peut y avoir une interrogation. Mais l'interrogation, en l'occurrence vis-à-vis des pays émergents et pour rejoindre la discussion sur les entreprises, elle vient d'où ? Elle vient de cette notion du marché des pauvres. En anglais, on appelle ça le BOP. En français, c'est le bas de la pyramide. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises européennes, occidentales, se sont rendues compte que une partie du marché international leur échappait parce que les gens n'étaient pas solvables, c'est-à-dire n'avaient pas les moyens de payer leurs produits. C'est exactement ce qui s'est passé pour Danone. Danone avait le slogan « La santé pour tous » et ils se sont rendus compte que les yaourts étaient trop chers pour être vendus au Bangladesh auprès d'une partie de la population. Donc toute cette question de la montée des classes moyennes dans les pays émergents et avec du coup donc émergence d'un marché fabuleux, les grandes entreprises occidentales ont réalisé que les entreprises des pays émergents allaient devenir des concurrents et des concurrents mieux placés. Et du coup, ils se sont intéressés à ce marché des pauvres, à ce marché du bas de la pyramide.
Alors, on via la philanthropie
que, pour partie, via la philanthropie, parce que Danone, pour reprendre cet exemple-là, ils ont monté un fonds financier, Danone Communities, pour pouvoir faire des recherches d'adaptation de leurs produits à une clientèle qui avait des moyens moindres, et ça a débouché en partie sur ce travail au Bangladesh avec une usine de produits laitiers à meilleur marché. Donc oui, bien sûr, pour partie en termes de philanthropie, mais philanthropie au sens où nous en discutons tous depuis tout à l'heure, qui n'est pas la philanthropie exactement du XXe siècle de Rockefeller et de Carnegie, mais une philanthropie très combinatoire avec la finance et avec l'économie, que ce terme de capitalisme philanthropique vient de décrire. Et il faut vraiment prendre conscience des évolutions qu'on constate en matière de philanthropie pour voir le brouillage que ça amène. Je crois qu'on en a déjà un peu discuté les uns les autres. Et justement, ce qu'il nous faut, c'est sortir de ce brouillage pour de nouvelles alliances, comme l'a décrit, je crois, Jean-Louis Laville, et pour de nouveaux critères de différenciation, parce que justement...
Marc Lévy, je vous interromps parce qu'on approche de la fin de l'émission, je voudrais donner la parole pour un mot de conclusion à Vincent Hédin. Vincent Hédin, qu'est-ce que vous retirez de cette conversation à quatre, de ce débat? Est-ce que ça fait évoluer votre point de vue sur ce qu'est la philanthropie ou pas? Ou est-ce que ça vous a conforté dans la critique de la charité qui se fout de l'hôpital?
Non, je pense qu'on converge tous les quatre vers l'idée que la philanthropie est une anomalie démocratique et que parfois il y a des philanthropes du bien, mais en fait on s'est rendu compte à l'aune de la discussion que c'était rarement le cas. Et effectivement, Olivier Legrain, il protège aujourd'hui quelque chose qui est très menacé en France, à savoir la liberté des médias. Je le dis dans un média public, à une époque où 90% de nos médias sont concentrés dans les mains de 9, on appelle ça comme on veut, milliardaires, plutocrates, mais donc effectivement c'est plutôt bien qu'il y en ait quelques-uns qui sortent du lot, mais malheureusement, moi, je garde plutôt une tonalité critique. Et au fond, puisque vous aviez dit au début que je donne des cours de rhétorique, la figure favorite d'Aristote, c'est la réfutation. C'est qu'on s'est beaucoup interrogé sur les initiatives pour le bien, notamment la responsabilité. Je finirai juste là-dessus. C'est que je constate que l'intégralité des entreprises qui ont des fondations, qui s'engagent, qui font de la RSE, etc., etc., elles étaient quasiment toutes dans LuxLeaks, donc le scandale d'évasion fiscale au Luxembourg révélé par Le Monde la semaine dernière. Toutes. En revanche, les entreprises, et je ne parle pas d'associations, je parle bien d'entreprises, des entreprises engagées, responsables, la sobriété en CO2 qui vise à avoir une très faible échelle de rémunération entre leurs salariés, comme Patagonia, comme les baskets Veja, comme les jeans 1083, comme la coopérative agricole, c'est qui le patron ? Ils ne redonnent rien et ils n'ont pas de département RSE. Ils sont intégralement responsables et ils essayent d'être le plus vertueux possible. C'est plutôt ça mon modèle de société.
Cette émission était réalisée par Jérémy Besset. Elle est maintenant terminée. Merci au service de documentation de RFI, sans lequel elle n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à vous quatre, Vincent Hédin, Didier Minot, Marc Lévy, Jean-Louis Laville. Les références de vos livres respectifs sont sur la page internet de cette émission, sur le site www.rfi.fr. Et vous pouvez nous podcaster sur l'application Pure Radio de votre smartphone.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Le goût du monde.